This is Infinite TV from Infinite Universes. Look.
J'ai un Gilles de la Tourette inversé. Je crie que des trucs très sympas. L'horreur.
Someone once told me time is a flat circle.
My log has something to tell you. Do you know it?
I don't believe we've been introduced.
Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans l'épisode 80 de Un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'ACS, l'Association française des critiques de séries, en partenariat avec Binge Audio. On est ensemble pour 30 minutes d'analyse, d'admiration et de bitchage en bonne et due forme sur le retour d'un polar qui sent bon l'Amérique profonde et les crises existentielles.
Next one.
Je suis Charlotte Blum de OCS et à mes côtés se trouve une bien belle brochette de spécialistes, Stéphanie Guérin du Parisien, salut Stéphanie.
Salut, salut.
Pierre Langlais de Télérama, salut Pierre.
Hello et bonne année.
Merci, toi aussi, vous aussi les amis. Et Alexandre Buyuko-Dabas, des Inrock.
Hello.
Hello. Cette semaine, nous allons traîner nos carcasses de critiques de la Louisiane à la Californie et au Mont Ozark pour fêter ou remettre en question le retour de True Detective. Rarement une série n'aura connu un parcours aussi chaotique, porté au rang de chef-d'œuvre dès sa première saison, puis globalement détesté pour la seconde, on en reparlera. La troisième saison sera celle de la réconciliation ou de la séparation irréfutable.
You ever see something like this?
No, sir.
Someone once told me that all your love, your hate, was all the same thing. It was all a dream. And like a lot of dreams, there's a monster at the end of it.
Voilà, c'est beau, c'est joyeux. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti quand vous avez vu la première saison de True Detective ? On rappelle quand même que ça sortait de nulle part, par un auteur qu'on connaissait pas. Enfin bon, bref, c'est venu
avec
comme ça.
Des acteurs qu'on n'avait jamais vus.
Ah, ne mélange pas tout.
Pardon.
Allez, parlons émotion, parlons sentiment.
Est-ce que je peux parler avec l'accent de McConaughey ? Non, je peux pas y arriver. Je vais pas y arriver. J'aimerais bien essayer, mais je vais pas y arriver.
Tu te souviens pas ?
Je me souviens pas. J'ai pas. Non, je déconne. J'attaque du coup.
Bah,
maintenant que j'ai voulu faire le malin, un souvenir atmosphérique, un souvenir, cette sensation de se faire rapper dans un univers, on a beaucoup dit avant et ensuite encore plus après que finalement ça, c'est presque une saison qu'il faudrait revoir pour être sûr qu'on s'est pas fait un peu balader, c'est-à-dire qu'on n'était pas fasciné par quelque chose et que du coup on n'a pas pris assez de recul. Il y a eu un très fort pouvoir de fascination qui est apparu assez rapidement, qui est dû en bonne partie à la mise en scène de Fukunaga et aussi à l'intensité de l'interprétation, je pense.
Stéphanie ?
Moi j'ai été vraiment frappée par ce côté à la fois très simple et très compliqué en même temps. Un vrai polar qui est assez droit tout en multipliant les temporalités, les allers-retours entre le présent et le passé. Et en même temps, on reste accroché vraiment tout du long parce que vraiment, on a envie de savoir où va cette enquête. L'enquête est au cœur de la série et en même temps, la relation entre les personnages aussi. Donc, vraiment un côté polar pur, la pureté de l'œuvre qui m'a fasciné, moi.
C'est beau ça.
Moi, je me souviens que beaucoup de gens dans mon entourage, j'avais pas démarré la série dès le début de sa diffusion, et beaucoup de gens s'étaient mis tous à parler d'un fameux plan séquence à la fin de l'épisode 4 où tout le monde disait tu vas voir, c'est plus de la série, c'est du cinéma. Chose que je trouve déjà un petit peu étrange comme
bref. Non, en 96, on pouvait encore dire ça.
Comme rapprochement, voilà. Mais c'est-à-dire, bon, j'ai regardé par curiosité la série et effectivement, je trouve qu'au niveau de l'ambiance, il y a quelque chose de très très fort qui est fait dans cette manière de filmer le Louisiane, quelque chose de très hypnotique. Après, je trouve que c'est quand même une série, au niveau polar pur, je trouve ça quand même extrêmement classique. Et je trouve que c'est surtout une série qui se prend beaucoup, beaucoup, beaucoup trop au sérieux. Et qui tente de faire avaler aux spectateurs des espèces de digressions philosophiques interminables, mais qu'on dirait des fois, on dirait qu'elles ont été écrites en cadavre exquis, en écriture automatique, mais j'ai l'impression que des fois, ça brasse du vent quand même, un petit peu pour rien, et que ça se la pète beaucoup.
Une série qui se la pète un peu comme son auteur, peut-être. Donc Nick Pizzolatto, un écrivain dont la légende dit qu'il a écrit cette série tout seul en 3 mois dans son garage, comme un espèce de fou hanté par cette histoire. On n'avait jamais entendu parler de ce mec. Alors vous vous êtes dit quoi ? C'est un génie ? C'est une arnaque ? C'est quoi ?
Il fallait voir plus pour se demander si c'était vraiment un génie ou une arnaque. C'est vrai que la première saison, on s'est dit, voilà quelqu'un qui a quelque chose à proposer. Alors c'est très curieux, juste pour rebondir sur ce qui a été dit, parce qu'on repense rarement au fait que ça s'appelle True Detective, ce qui en soi est un titre qui s'applique pas vraiment. Enfin, un vrai détective, bah au fait, non, pas vraiment.
C'est non, mais le trou, ça va avec le True South. C'est le mot oui. qu'on donne à cette région-là. Ça n'a pas de rapport avec ce que sont les détectives. Vraiment, c'est comme True Blood, tout ce qui se passe dans le sud, dans la Louisiane, c'est trou, c'est le mot qui va avec.
Eh bien, merci de m'apprendre un truc et de me faire passer pour un crétin. Ceci étant dit, Pizzolatto, c'est vrai, sortait un peu de nulle part, et il y avait moi, il y avait un truc réjouissant, c'est que c'était quand même une époque où la télé, et en particulier le câble américain, commençait à aspirer un maximum de noms, de grands noms du cinéma, et de voir un type comme ça débouler un peu de nulle part, c'était assez réjouissant. Voilà, c'était une nouvelle voix, c'était quelqu'un qui avait autre chose à proposer, alors qu'il y avait clairement des copains sympas et puissants, parce que McConaughey et Harrelson étaient dans le coup quand même depuis le début. Mais quand même, c'était un nouveau venu, et ça faisait du bien de se dire que peut-être ça ouvrait une fenêtre vers quelque chose d'autre.
Est-ce qu'il aurait vendu cette série sans ses acteurs ? Est-ce que l'écriture, d'après vous, suffisait sans deux grosses têtes d'affiche comme ça ?
Moi, je trouve pas particulièrement que ce soit une écriture très télévisuelle. On parlait de polar et effectivement, il joue avec les codes du polar, mais ça pourrait être je suis pas un grand lecteur de polar américain, mais ça pourrait être un roman de polar avec des. Je bug un peu, désolé. Avec une architecture classique, voilà, des personnages. Hanté comme ça par l'enquête, je trouve pas que ce soit forcément un très bon scénariste de télé. Et je sais pas si j'ai envie de le voir explorer d'autres genres à la télé. Peut-être que sur du long métrage, ou peut-être qu'en tant qu'écrivain, il pourrait faire des choses intéressantes. Mais je trouve pas qu'il soit emparé de la forme télévisuelle d'une manière très novatrice.
Sur le côté des acteurs, en fait, c'est un tout. Il y a la réalisation qui est ultra importante, il y a le jeu des acteurs, il y a l'écriture évidemment. C'est très difficile d'imaginer cette première saison sans McConaughey et Harrelson. Donc, question difficile, mais forcément ce duo d'acteurs a porté la série sur ses épaules et on peut vraiment pas l'imaginer sans eux.
Oui, et puis c'est difficile, sachant en plus qu'ils sont crédités comme producteurs d'entrée de jeu, ouais. Je crois, c'est certainement un signe qu'ils ont été impliqués dans le processus. Ils le sont restés d'ailleurs. En général, les comédiens, la première saison, ils se contentent d'être comédiens, quoi. Là, les gars sont impliqués depuis le début, donc clairement, pour s'offrir la visibilité sur HBO qu'il a eu, je pense que McConaughey et Harrelson très vite ont eu un rôle clé dans cette histoire-là. Après, connaissant, le mot est fort, hein, mais un petit peu Pizzolatto, on a eu la chance de le croiser il y a quelques années à Sériemania. On a bien compris que c'était quelqu'un qui avait un ego assez fort et qui, du coup, je pense, s'est pas laissé marcher sur les pieds tant que ça, même si on pense qu'avec Fukunaga, clairement, ils ont dû se...
Ça a clashé.
Parce que c'est deux gros égos, donc c'est pas simple de faire travailler deux personnes comme ça. Mais la soupe a pris et on a eu une série avec ses défauts, avec ses longueurs, mais qui malgré tout reste un événement majeur des années 2010, quoi.
Et tu disais tout à l'heure, Alexandre, et t'as raison, je pense qu'on s'offusque tous quand on entend ça, mais on l'entend encore aujourd'hui, c'est qui est fou, c'est pas une série, c'est du cinéma, blablabla, blablabla. Les choses changent, mais malgré tout, le statut du réalisateur à la télé, il passe encore très souvent après celui du scénariste. Est-ce que pour autant, vous pensez que le travail qu'a fait Fukunaga sur cette saison a pu changer le regard qu'on porte sur la réalisation à la télé ?
J'irai pas aussi loin que ça, mais c'est clairement une œuvre de mise en scène. Enfin, il a fait tous les épisodes. C'est un cas encore assez rare à la télévision américaine, même si sur les mini-séries, il y a de plus en plus de fois, on pense à Jean-Marc Vallée sur Sharp Objects ou Big Little Lies. Donc, il a peut-être eu un impact là-dessus, sur le fait que peut-être on peut se dire qu'une série peut être à égalité un travail de scénario et de mise en scène. Et je pense que quelqu'un comme Jean-Marc Vallée, je le sais pour en avoir parlé avec lui, c'est quelqu'un, une fois qu'il a son scénario, il fait un film. C'est-à-dire qu'il fait une série, ok, mais c'est lui le boss sur le plateau, à la différence.
D'ailleurs, on dit une série de Jean-Marc Vallée, on oublie complètement les auteurs.
On oublie les auteurs trop souvent, oui.
C'est vrai que, enfin, on a vu beaucoup depuis de séries qui ont été écrites et réalisées par une même personne. Je pense à cette année, The Hunting of Hill House ou Azenik de Soderbergh. Mais on a rarement eu comme ça des séries vraiment à deux têtes. Et je trouve que la première saison de True Detective, pour moi, c'est vraiment une série de Nick Pizzolatto et Cary Fukunaga. Il y a quelque chose comme ça de deux têtes pensantes. Et c'est peut-être ça qui a donné sa couleur à cette première saison.
Ça peut rassurer aussi, pardon. Ça peut rassurer aussi les acteurs venus d'Hollywood d'avoir affaire à un seul réalisateur. Je me souviens de Julia Roberts récemment sur Homecoming qui disait si Sam Esmail n'avait pas tout réalisé, j'y serais pas allée. C'était une des conditions. Ça donne une homogénéité quand même à l'œuvre qui manque parfois sur d'autres projets.
Et quand elle est arrivée, True Detective, moi je sais que je travaille notamment avec beaucoup de gens qui ne regardent pas de séries, c'était la première fois que le lendemain de la diff, tout le monde avait regardé, tout le monde en parlait, enfin, je ne sais pas, ils étaient possédés, j'en sais rien, mais en tout cas, l'accueil qu'a eu cette première saison était assez fou dans la critique. Alors après, c'est HBO, donc ça ne fait pas des audiences incroyables, ça reste du câble, mais en tout cas, c'était globalement hyper positif. Et moi, j'étais super surprise à la saison des prix, que ce soit pour les Emmy ou les Golden Globe, elle a été complètement snobée, cette série. Alors, Fukunaga a eu un prix pour la réalisation, j'ose même pas imaginer Pizzolatto dans sa tête, il a dû péter un câble, enfin ça devait être très drôle. Mais est-ce que maintenant, avec du recul, quand on voit ce que peut remporter Jean-Marc Vallier, ce que peuvent remporter toutes ces belles mini-séries, vous vous dites c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas eu plus de récompenses pour cette série-là?
Les voix des prix sont impénétrables, hein. On sait jamais trop, il y a des trucs, on est sûr qu'ils vont tout gagner, ils gagnent pas grand-chose, voire rien du tout, voire ils sont jamais nommés.
Peut-être. Elle était nommée. Hein.
Oui, elle était nommée. C'est vrai que c'est là que c'est plus curieux, parce que des séries comme The Leftovers qui ont été snobées n'ont même pas eu la chance d'être nommées. Donc déjà, ça a réglé le problème. Mais c'est toujours le... Je sais pas si c'est révélateur de quelque chose. Le fait qu'il n'y ait pas de récompense pour la série elle-même. Par contre, ce qui est sûr par rapport à ce que tu as dit à la discussion, c'est que True Detective a fait ce qu'une poignée de séries font, c'est de la surthéorisation des fans, c'est-à-dire que toutes les semaines, il fallait, chacun avait sa petite théorie pour savoir qui était quoi, qui était le tueur, etc. Chose que quelques séries à la Lost arrivent à faire, mais c'est quand même relativement rare.
C'était super excitant.
Je pense que la série manquait un petit peu de prise avec le monde contemporain, ou en tout cas de sous-texte politique pour vraiment intéresser des votants ou remporter des prix. Et quand on voit les séries aujourd'hui, les The Handmaid's Tale, enfin des séries qui vraiment disent quelque chose de notre monde actuel, True Detective, c'était un très bel objet, on va dire, bien ouvragé, réussi, qui a fait un peu son buzz, mais je pense qu'il n'a pas eu vraiment de résonance au-delà de sa diffusion et des discussions que ça a engendré.
Au niveau des prix, il faut voir aussi qui avait en face cette année-là, et c'est Fargo qui a à peu près tout raflé. C'est pas honteux non plus d'avoir récompensé Fargo, donc voilà, juste pour remettre dans le contexte.
Ouais, enfin, moi je déteste Fargo, j'adore True Detective, mais bon bref, ce n'est pas moi qui vote. Passons à la saison 2. Sometimes your worst self is your best self. My strong suspicion is we get the world we deserve. This isn't me doing this. This isn't me. This girl's gone missing. Nobody cares. The interior's poisoned and suddenly worth billions. Nobody cares. Alors, on en a vu des grands écarts entre une saison 1 et une saison 2. Mais alors là, c'était assez brutal. Alors, reprenons la première question pour la saison 1. Vous avez ressenti quoi? Douche froide? Plutôt content? Comment ça s'est passé pour vous, cette saison 2?
Tu parles de grand écart, c'est le facial de Jean-Claude Van Damme. Quelle déception! J'ai pas regardé la saison 2 de True Detective avec le même ahurissement que Marseille, hein, faut pas exagérer. Mais j'étais devant mon truc et je disais, au début, j'ai dit, ouais, pourquoi pas? Et puis, il commence à y avoir des scènes qui arrivent et je dis, mais c'est pas possible. Il a laissé le scénar à Alain Chabat, c'est un truc des nuls. C'est une blague, c'est une parodie, quoi. J'ai trouvé que c'était quasi parodique, c'est-à-dire que, en fait, il se singeait, quoi. Il faisait du Pizzolatto. Alors, rétrospectivement, maintenant qu'on a vu une bonne partie de la saison 3, on va en parler plus tard, mais je me suis dit, quand même, il s'était vachement mis en danger. C'est-à-dire que c'était une autre histoire dans un monde différent, c'était plus trop du tout. C'était à Los Angeles. T'as vu, j'ai compris. Et du coup, voilà, il y avait une prise de risque, mais quel bordel, quelle confusion, c'était chargé, c'était, enfin, voilà, ça, pour moi, ça fonctionnait pas. Ça, c'était parfois fascinant, de temps en temps. Mais sinon, je suis incapable de me souvenir de quoi ça causait, hein. Vraiment.
S'il y avait un truc d'immobilier.
Ouais, c'est ça.
Ça va, des casinos, je crois. Stéphanie, tu vas la sauver ou pas cette saison 2?
Non, parce qu'en plus, Pierre, tu disais que quand t'as vu le début, tu t'es dit pourquoi pas. Moi, dès le début, je me suis dit, oulala, où est-ce qu'on va? Le premier épisode que j'ai revu pour préparer ce podcast, vraiment, va dans tous les sens, présente plein de personnages, on comprend pas du tout où on veut aller avant peut-être les dernières minutes du pilote. Et ça continue après, ça part dans tous les sens, et on n'arrive à s'attacher à aucun des personnages, en fait. Ouais. Donc au final, même à la fin, il y en a qui ne survivent pas et on s'en fiche.
C'est voilà. Clair.
Bon, bah Alexandre, c'est sa dernière chance.
Bah, vous l'aurez peut-être deviné, mais moi, je pense que je préfère la saison 2 à la saison 1, peut-être. Bon, je joue un petit peu aussi...
Il est là, c'est la seule personne au monde.
Je joue un petit peu au relou de service, mais... Cette saison 2, je trouve que déjà, oui, effectivement, il a pris des risques en opérant comme ça, ce déplacement géographique, en changeant totalement d'ambiance et de tonalité. Et je trouve que la zone géographique qu'il investit dans la saison 2 est assez fascinante. C'est pas Los Angeles, c'est des petites banlieues, fictives ou pas, à côté de Los Angeles. Et c'est une espèce de non-zone faite comme ça de décharges industrielles, de vieux motels miteux, d'embranchements d'autoroutes. Et je trouve que notamment le réalisateur Justin Lin des deux premiers épisodes filme ça de manière assez magistrale. Je trouve qu'il y a de très très belles scènes de voitures ou de motos qui rappellent que le réalisateur était sur 4 épisodes de la franchise Fast and Furious. Et voilà, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez dans la manière de rendre compte d'un environnement urbain hyper froid, hyper déshumanisé et un peu dégénéré. Je trouve que ça marchait très très bien. J'aime aussi beaucoup les 4 personnages. Je trouve que finalement ils ont quelque chose de plus original. Et c'est pas forcément enfin, on sort un peu du cliché du flic torturé, hanté par son enquête et des longues digressions.
Excuse-moi, Colin Farrell avec sa stache et ses cheveux gominés.
Moi, je trouve que quand même, chacun a un enjeu un petit peu différent. Il y a des enjeux intimes un peu plus forts. Alors, effectivement, non, mais là où je suis d'accord avec vous, je me fais un peu l'avocat du diable aussi. Je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est hyper confus et qu'on décroche rapidement de l'enquête. Et que voilà, bon, la construction de l'intrigue part dans tous les sens et on a un petit peu du mal à s'accrocher. Mais moi, en tout cas, sur les premiers épisodes, il y a quelque chose qui m'a vraiment fasciné. Et je trouve que le casting est très, très bon.
Ouais, alors Vince Vaughn, je ne suis pas convaincu, moi. Alors, mais pas plus que, comment ça s'appelle, Kelly...
Rachel McAdams.
Non, l'autre.
Kelly Riley,
que je trouve pas bonne non plus. Mais il a eu moins de temps, le Pizzolatto, pour la faire cette saison. Il a dû se la faire rapido et pas dans son garage. Donc il était peut-être beaucoup moins habité par son travail. Et du coup, ça fait vraiment, ça fait à la va-vite. C'est-à-dire que je pense que la même saison avec du temps et de l'application, ça aurait pu être génial.
Et peut-être un même réalisateur sur tous les épisodes, vu qu'il a l'air de fonctionner quand même comme ça, en fait, au final.
Bah, c'est un peu un aveu de comment s'est passée la relation Pizzolatto-Fukunaga sur la saison 1, de se rendre compte que, et sur la saison 2 et sur la saison 3, on en parlera après, on n'a personne qui s'est porté volontaire pour faire une saison entière. Et d'ailleurs, il me semble qu'à l'époque, on nous avait dit que la saison 3, c'est entièrement réalisé par Jérémy Saulnier. Et il s'est vite barré après 2 épisodes, parce que bon, je pense que c'est pas la grosse fête. Est-ce que ça nous confirme aussi l'importance de la réalisation, que de se dire la série, elle est pas que ratée cette saison-là à cause du scénario? Il y a aussi peut-être un manque de cohérence visuelle, il y a peut-être un manque de cohérence de rythme.
Ça n'a pas aidé en tout cas, il n'y a pas ce liant qui manque. Quand on dit que c'est confus, que c'est brouillon, c'est ça. Il manque un peu d'homogénéité et de sens, d'une vraie direction, en fait, c'est ça. Et après tout...
C'est pas exclu que Pizzolatto, ça soit un mec qui ait de très bonnes idées, mais il y en a des scénaristes comme ça à Hollywood, hein, qui a besoin d'être canalisé, quoi. Et je pense que Fukunaga...
Qui peut canaliser ce mec?
Sur Fukunaga, sur la première saison, sans doute. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui dit, ok, j'ai besoin, en fait, toi t'es dans ton délire là, j'ai besoin de prendre un peu de recul, et de prendre un peu de hauteur et du coup de créer une homogénéité. Ça passe par l'utilisation du décor. C'est vrai que la première saison, c'est intéressant ce que tu as dit, Alexandre, sur la saison 2, qu'il y a effectivement un univers qui est très intéressant et tout, sauf que je serais incapable de te le cartographier. Et surtout, ils ont multiplié les plans d'hélicoptère à la trou détective, etc., pour peut-être essayer de nous aider à trouver la cohérence du truc, sauf que la saison 1, il y a une unité d'atmosphère qui est beaucoup plus forte que dans la saison 2, où du coup on est un peu paumé. Et quand on est paumé dans une série, il faut qu'elle soit maîtrisée dans l'écriture de ma boule, sinon en fait tu t'emmerdes, quoi.
Je pense que si notre ami Pizzolatto écrit effectivement tout détective un petit peu comme de longs films, il a aussi besoin, comme dans un film, d'avoir un réalisateur unique et une mise en scène unique. S'il avait une écriture un petit peu plus feuilletonesque, un petit peu plus télévisuelle, il pourrait y avoir plusieurs réalisateurs qui s'emparent du même matériau en amenant leur patte, en le tirant dans des directions différentes. Je pense qu'on n'est pas là-dessus, sur True Detective.
Alors si tout le monde avait, allez, tout le monde sauf Alexandre avait adoré la saison 1 de True Detective, il y a quand même un reproche qui avait été fait à Nick Pizzolatto et qui est fait à beaucoup de scénaristes, hein, mais qui est une sorte de mépris un peu des personnages féminins. Le personnage de la femme de Martin Hart, c'était juste rien. En fait, en gros, dans la saison 1, on était ou femme au foyer trompée, ou prostituée, ou morte. En gros, quand on était
maîtresse,
une
femme. Maîtresse aussi.
Ah, maîtresse, c'est très important.
Il y a Alexandra Daddario. Du coup, ça change tout. On n'oublie pas Alexandra Daddario.
Voilà, une grande performance. Est-ce que vous avez l'impression qu'il s'est un peu rattrapé avec cette saison 2, notamment le personnage incarné par Rachel McAdams, ou que, bah non?
Moi, j'aime
beaucoup. Je me tourne vers Alexandra, hein, bizarrement.
Vous l'aurez compris, moi, j'aime beaucoup. Alors, j'aime le personnage interprété par Rachel McAdams. C'est peut-être aussi parce que j'aime beaucoup l'actrice et que je pense que je lui pardonnerai à peu près tous les rôles qu'elle pourrait faire. Non, je trouve que son personnage est assez intéressant dans le sens où il est notamment mu par des traumas ou des obsessions qui sont déjà pas les mêmes que ses collègues masculins. Elle a vraiment des traumas propres. Elle a une histoire, une trajectoire en elle-même. Elle n'est pas sursexualisée dans la série comme c'est le cas dans de nombreuses séries. Elle a des interactions purement professionnelles avec ses collègues masculins. Enfin, je trouve qu'elle a une trajectoire qui finalement, dans le genre du polar et en série de manière générale, est assez rare. Après, le fait d'avoir juste écrit un personnage féminin et d'avoir mis trois mecs autour, ça sent vraiment la réponse à la polémique, un petit peu le pied de nez.
C'est quand même un rôle important. Mais je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois qu'à l'époque, on a reproché à ce personnage d'être justement en fait un personnage masculin, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire qu'elle avait pas grand-chose de. Alors après, c'est tout de suite rentré dans un débat complexe de dire qu'est-ce que la féminité, qu'est-ce que la virilité, etc. Mais on avait dit en fait finalement, il a mis une paire de seins et des cheveux longs à un bonhomme, et c'est le personnage de Rachel McAdams. Cette saison 2 est un peu trop loin pour que je rentre dans le détail de ce débat, mais c'est ce dont je me souviens.
Et puis elle finit quand même dans le lit de Colin Farrell, si je me trompe pas. Donc.
Mais il est irrésistible.
Surtout sa moustache.
Et puis d'ailleurs, il y a cette réplique de Vince Vaughn, je crois, dans le dernier épisode, qui lui dit "You're a lady cop." Et elle lui répond "Ah ouais, qu'est-ce qui m'a trahi? C'est ma paire de seins." Et il lui dit "Non, mais you're a lady, you have dignity." Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? T'es une femme, t'as de la dignité. Ok.
Bah, ça, c'est Pizzolatto tout seul dans son garage qui essaye de faire plaisir. C'est un peu le Donald Glover de la saison 2 de Girls, quoi. Ah, il y a trop de personnages blancs. Bon, bah, je vais mettre un noir. Bon, deux épisodes parce qu'après, ça a 5 minutes. Enfin, voilà. C'était un peu foireux, hein. On va pas se mentir. Très bien. Eh ben, on va passer à la saison 3.
Two kids. Supposed to be home by 5:30, never arrived.
You almost had a clean night, man. Heaven is the same. Anything you can tell me about Will?
He's quiet. I don't think he got noticed much.
I'm telling you, they didn't run off.
All you had to do was watch him.
Mind if you look around?
How you gonna wear that badge?
Got a little clip on it.
Looks like you haven't slept in a couple days.
I never stop coming up with theories about that case. My job. There's no certainty.
What you don't remember, you don't know you don't remember.
What
you don't remember.
Oh, sweetheart. Did you think you could just go on and never once have to look back?
Alors schématiquement, on va dire True Detective, une saison merveilleuse, une saison foireuse. Comment on appréhende une saison 3? C'est celle qui va dire si oui ou non on l'aime finalement. Comment on se sent quand elle arrive?
Tandax, comme on dit chez moi. On est tendu parce qu'on se dit, ok, qu'est-ce qu'il va faire ce coup-là? Cette fois-ci, il a eu du temps, hein, donc on l'attendait presque pas. C'est-à-dire qu'elle a jamais cessé d'exister. C'est-à-dire que j'ai regardé l'historique, en fait, il a toujours été question d'une saison 3 de True Detective. Sauf que quand on nous l'a annoncé, on a fait, ah ouais! Ah, il habite pas dans une tente quelque part dans le nord du pays. Là, non, il est toujours sur son truc, il a pas lâché l'affaire. Alors, sur le principe, bravo, c'est courageux. Parce qu'après ce qu'il a pris dans les gencives en saison 2, il faut vraiment qu'il regonfle son ego et qu'il reparte à l'attaque. Donc, sur le principe, sans dire ce que j'en pense pour l'instant, bah moi, je voulais lui donner sa chance.
Stéphanie. Moi, je ne l'attendais pas, donc je me suis dit pourquoi
moi,
pas.
Moi, je m'en fous.
Non, mais après, c'est vrai qu'après le naufrage de la saison 2, une saison 3, je n'étais pas forcément pour. Le casting a été annoncé au fur et à mesure. Je me suis dit, ah ouais, ok, pourquoi pas. Mais voilà, je n'avais vraiment aucun a priori et je me suis dit, évidemment, je vais regarder. Mais j'étais pas tendue en regardant ce pilote, quoi, pour le coup.
Moi, pas trop d'attente non plus, mis à part au niveau du casting et du réalisateur qui avait été annoncé à la base, Jérémy Saulnier, comme à la tête des 8 épisodes et qui finalement a quitté la barque, paraît-il, à cause de différents artistiques.
Oui, c'est joliment dit, hein. Alors, le casting, c'est un revenant, Stephen Dorff, un oscarisé, Mahershala Ali, et puis une actrice qu'on a vue il y a pas si longtemps que ça, dans notamment The Girlfriend Experience, Carmen Ejogo. C'était tout ce qu'on avait à se mettre sous la dent au niveau des comédiens. Et puis, un trailer, deux trailers, où on a senti l'ambiance de cette saison 3. Et là, je pense que, bon, en tout cas, moi, personnellement, j'ai commencé à me dire « Ah, je vais bien l'aimer cette saison, c'est sûr, c'est crade, c'est sombre, il fait nuit, les gens sont déprimés, je vais aimer ».
En même temps, ça a jamais rigolé, hein, True Detective, ça a toujours été déprimant. Alors après, il a eu du pif quand même. Enfin, HBO ou les responsables du casting ont eu du pif parce que Mahershala Ali commençait déjà, quand ils l'ont recruté, il sortait de son Oscar. Enfin, je pense qu'il était dans cette période-là, donc il commençait déjà à être un nom. Mais là, niveau timing, bravo les amis, quoi. Il vient de choper un Golden Globes, bim, tout de suite, ça arrive derrière. On commence à en parler pour les Oscars à nouveau, donc bien senti. C'est vraiment l'acteur qui monte. Donc là, True Detective réussit un coup, c'est-à-dire qu'avant c'était que des énormes stars hollywoodiennes. Là, il se positionne presque dans la mouvance. Enfin, c'est-à-dire vraiment dans quelque chose qui va utiliser des gens qui sont et il y en a pas mal dans les second rôles d'ailleurs. Alors Dorff, c'est une prise de risque différente, mais sinon c'est des gens qu'on possiblement qui pourrait vraiment être majeur à Hollywood dans les années qui viennent. Quant à l'ambiance, moi je me suis dit ah c'est cool, c'est la saison 1. Voilà, on est dans une ambiance très proche, alors sauf que c'est dans les Ozarks, donc en Arkansas, donc un peu plus au nord du pays. Mais bon, clairement, il y a au mieux, pour être gentil, des références, quoi.
On retrouve la ruralité en fait de la saison 1, là où effectivement la saison 2 était beaucoup plus urbaine. Là, on retourne un peu dans les campagnes et les Ozarks qu'on a découvert aussi dans Ozarks,
ben voilà,
sur Netflix. Mais là, c'est beaucoup plus lumineux dans l'image. Et ce qui était déjà un peu le cas en saison 1, là où la saison 2 était beaucoup plus sombre dans l'image. Après, le propos, évidemment, on n'est jamais très très léger dans cette histoire. Et Mahershala Ali, les 4400 quand même, hein, à la base,
il y a
des années.
Mais le grand public, finalement. Cards aussi,
Non, mais c'est pas un inconnu, mais c'est pas Matt Conaway
ou Farrell.
Mais
c'est son moment. Et c'est mérité.
Et pour
c'est
le coup, pour moi, cette saison 3, c'est lui. C'est pas vraiment un duo. C'est pas Ali et Dorff. C'est quand même lui qui a vraiment le rôle principal et qui est fantastique. Vraiment, moi, il me touche énormément. Magnifique travail des maquilleurs aussi.
Parce qu'on précise qu'il y a plusieurs temporalités, comme sur la saison 1, et donc c'est des personnages qu'on voit vieillir. Voilà. C'est pour ça l'histoire
beaucoup plus large. Ouais, c'est presque une vie. Enfin, ça va de 1980 à 2015, donc on a vraiment un très très large spectre. Et c'est vrai que, en fait, ce qui est marrant, c'est que ça fait vraiment cette saison 3 Pizzolatto qui a remis les deux pieds par terre et qui s'est dit OK, on va s'appliquer quoi. C'est très appliqué et c'est vrai que c'est l'intrigue, c'est la disparition de deux enfants.
Mais est-ce qu'il s'est dit on va s'appliquer ou est-ce qu'il s'est dit bon bah quand je prends des risques tout le monde m'envoie chier donc je vais leur donner ce qu'ils veulent, on va leur refaire le chef-d'œuvre.
Oui, c'est la même chose finalement. Enfin, je pense qu'on n'est pas
vraiment.
Bah c'est-à-dire on va par ailleurs là où je trouve, alors on a pu voir 5 épisodes, là où il est malin, mais on n'en dira pas beaucoup plus, c'est que il part sur quelque chose. Les deux premiers épisodes, j'étais quand même très inquiet. J'étais très inquiet. Je me suis dit, oulala, c'est Greatest Hits Season 1, quoi. La voiture, les discussions dans les voitures, les petits symboles cabalistiques, la totale.
Ça va avec la région aussi, hein.
Ouais, mais c'est quand même, franchement, un limite du foutage de gueule. Mais maîtrisé. Et ensuite, et c'est là que Stéphanie a raison, ça devient l'histoire du personnage de Mahershala Ali. Et il y a la vie intime, il y a ses amours, il y a sa relation avec son fils. Et là, il y a un vrai truc émotionnel qui joue, qui est beaucoup plus subtil et qui est différent de la saison 1, mais il faut attendre un peu.
Est-ce que vous vous êtes dit aussi, ah bah tiens, le temps est un cercle plat. CF saison 1, ce qu'on va faire, on va le refaire again and again and again. Parce que c'est quand même la phrase de la saison 1, et puis la saison 3, c'est à nouveau la saison 1, quelque part.
Oui, c'est finalement l'enquête qui obsède. C'est j'en reviens toujours, j'en reviens au truc. Et en fait, ce qui est très malin, ce qui est utilisé par Pizzolatto dans l'écriture de cette saison 3, c'est que il révèle par temporalité interposée des éléments de l'intrigue du passé. C'est-à-dire que vous avez un personnage qui, en 2015, va dire « Mais j'invente un truc, hein, c'est pas dans l'histoire. La voiture grise, tu t'en souviens ?» et nous on l'a pas encore vu. Et plus tard, on voit apparaître la fameuse voiture grise dans le passé. Et il déstructure comme ça la narration, et ça marche aussi pour la présent, pour la construction des personnages qui sont construits en reflet. C'est-à-dire que on comprend en entendant le vieillard ce que pouvait penser le jeune homme. Et il y a un jeu, moi je trouve, d'écho qui est assez malin.
Avec une vraie réflexion sur la mémoire, pour le coup. Oui. Parce que justement, dans l'intrigue qui se passe en 2015, il est malade, il perd ses souvenirs, et donc il y a aussi tout ce jeu sur ce dont je me souviens, est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé, etc. Et ça, c'est assez fascinant.
Oui, moi, je trouve ça très très beau, cette manière que Pizzolatto a eu d'amplifier quelque part l'idée de la saison 1, qui était quelque part comment une enquête peut... Hanter les flics qui l'amènent, sauf qu'il les tire sur à l'échelle d'une vie. Et les deux premiers épisodes, ça met un petit peu de temps à décoller. Effectivement, on rentre dans des sentiers battus, on a déjà vu ça en saison 1, on se dit bon, il a joué un peu la facilité, et puis finalement, il y a quelque chose qui se dessine, je trouve, de l'ordre de l'émotion, qui est assez beau, de voir juste des visages vieillir sur 35 ans, je trouve ça super beau, des rides qui s'accumulent, une affaire qui est tout le temps là dans un coin de la tête, je trouve que ça dessine quelque chose d'assez émouvant au final, plus qu'en saison 1.
Mais il nous a montré qu'il savait écrire et il nous a montré qu'il savait créer des personnages, mais là, j'ai l'impression que ce qu'il nous montre, c'est qu'il peut émouvoir, alors que c'est quelqu'un d'assez froid, en fait, Pizzolatto, jusque-là.
Mais je trouve que c'est la saison, finalement, la plus humaine des trois. Je trouve qu'on est un peu moins dans l'esbrouf ou dans la prétention qu'en saison 1, c'est beaucoup moins confus, beaucoup plus simple. Malgré les trois temps, ça c'est quand même assez facilement compréhensible, donc c'est beaucoup plus simple qu'en saison 2. Et oui, il y a quelque chose, je trouve, au niveau de l'émotion qui est plus fort.
Donc on est pour, on est contre cette saison 3 ?
Pour, pas aussi scotché qu'en saison 1, mais beaucoup plus réussi que la saison 2, ouais.
Ouais, je suis assez d'accord. Il a assuré, entre guillemets, mais c'est pas juste. J'ai vu pas mal de critiques américaines qui disent ouais, bon, ok, le mec nous a refait le même coup. C'est ce que j'ai pensé au début. Je trouve que ceux qui s'arrêtent à ça, ils ont sans doute trop vite commencé à regarder ailleurs en se disant que Pizzolatto assurait son contrat avec HBO. Je pense qu'il fait un peu plus qu'assurer son contrat avec HBO. Et après tout, c'est vrai, j'en discutais avec une consoeur, on n'a jamais reproché à Shonda Rhimes de nous pondre les mêmes séries encore et encore, en changeant juste de décor d'un hôpital à un truc d'avocat, un truc de... Ben, c'est son style, c'est ses histoires, voilà, c'est son truc de faire des mecs qui parlent dans des bagnoles en faisant des périphrases et des trucs pseudo-mystiques. Ben, c'est ce qu'il sait faire, et là, il le fait plutôt bien.
Non, moi, je pense qu'il faut vraiment... attendre de voir les trois derniers épisodes, parce qu'on en a vu cinq normalement autour de cette table. Et je trouve que le rythme de cette troisième saison, c'est vraiment une saison à infusion lente en fait. J'ai l'impression qu'on sentira quelque part le dessin global à la fin, et que moi j'attends de voir quelle couleur elle va laisser à la fin, et ça sera peut-être pas du tout la même qu'en saison 1. On a encore trois épisodes.
Bon, mystère. Bon, moi je donne mon avis aussi pendant qu'on y est. Personnellement, je suis hyper contente, hyper rassurée de pouvoir à nouveau me sentir sale en regardant une série signée Nick Pizzolatto. C'est la fin de cet épisode 80 d'Un épisode et j'arrête. Merci à Stéphanie Guérin du Parisien, Pierre Langlais de Télérama et Alexandre Buyukodabas des Inroc, ainsi qu'à Quentin Bresson à la technique cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, mais d'ici là, n'hésitez pas à aller nous liker sur Twitter et Facebook. Vous y trouverez les comptes ACS et Un épisode et j'arrête. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.
Next one. Whoa, wait.
That's the last one!